Alors, les principaux résultats, hein, très très schématisés là. Donc, c'est développé, hein, on développe, on explique plus précisément dans l'ouvrage. Dominique en a parlé, hein, il existe une opacité de la vie scolaire, c'est-à-dire que pour nombre d'élèves, les notions de matière ou discipline ne sont pas toujours très claires. Hein. C'est incroyable le nombre de matières qui sont citées par les élèves. Et certaines sont parfois interrogantes. Mais qui dit opacité dit aussi insécurité pour un certain nombre d'élèves. Hein. Ça, il faut l'avoir en tête. Les disciplines prennent sens au sein de systèmes disciplinaires variables. Alors les systèmes disciplinaires, hein, c'est par exemple ce qui est dit dans les instructions officielles ou dans les bulletins scolaires, vous savez, où on regroupe matières littéraires, matières scientifiques, etc., ou des choses comme ça. Sauf que c'est reconstruit sous des formes diversifiées par les élèves auxquelles on ne s'attend pas forcément. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Par exemple, nombre d'élèves associent maths, histoire et anglais. Pourquoi ? Parce que ce sont trois disciplines où ils ont des difficultés de compréhension. Vous voyez, c'est intéressant de voir ça. Le problème se pose différemment dans d'autres disciplines. Troisième résultat, le vécu disciplinaire est important. Il est important, alors certes, on questionnait autour de ça, mais on l'a retrouvé et chez tous les élèves quasiment. Je ne m'attarde pas dessus, mais voilà, vous imaginez qu'il y a peut-être là une différence d'approche avec un certain nombre de nos camarades sociologues que nous apprécions pourtant bien par ailleurs. Quatrième point, les disciplines pèsent d'un poids plus ou moins important dans ce vécu. Donc Dominique vous a donné un petit peu ces images de poids. Ce qu'il y a d'intéressant à constater, et j'y reviendrai, c'est qu'on voit, bon, par exemple, les mathématiques, certes, mais aussi l'éducation physique et sportive, qui pèse d'un poids important. Et ça, j'y reviendrai. Cinquième résultat, l'orientation positive ou négative, hein, on apprécie ou pas, varie selon les moments du cursus, les filières et les configurations disciplinaires. Hein, c'est-à-dire, je vous rappelle, les formes différentes de mise en œuvre des disciplines. Par exemple, Dominique a insisté à juste titre sur le fait que globalement, le rapport aux maths était plutôt négatif. Mais ça, c'est massif à partir du secondaire. En primaire, les mathématiques sont la matière préférée. Ça invite à réfléchir sur justement ce qu'on disait, sur les configurations disciplinaires. Ça invite à réfléchir aussi, voilà, sur ce que délivrent à l'heure actuelle les résultats des enquêtes TIMSS, j'y reviendrai peut-être. Sixième résultat, seule l'éducation physique et sportive, de manière moindre les arts plastiques, et on l'oublie souvent, certaines matières professionnelles dans des filières choisies, comme esthétique ou cuisine, se caractérisent par un vécu nettement positif. Alors là, j'insiste parce qu'il ne faut pas globaliser LP. C'est très différent selon les filières, si vous voulez. Et donc, les élèves, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que quand on regarde, c'est que nombre d'élèves font bien souvent avec un vécu disciplinaire tendanciellement négatif. C'est-à-dire, quand on regarde sur l'ensemble des disciplines, ben, finalement, c'est une journée un peu casse-pied quand même et qui se répète de semaine en semaine et de mois en mois. Alors, on a essayé donc de reconstruire, hein, au travers des déclarations sollicitées des élèves, des questionnaires, des entretiens, les 16 dimensions principales qui structurent leur vécu. C'est discutable, hein, comme toute typologie. Hein, c'est un travail de construction qu'on fait. Le choix ou l'imposition. C'est-à-dire que l'élève a le sentiment qu'il a choisi la matière ou qu'elle lui a été imposée. Mais ça peut concerner les situations de travail aussi. Petite remarque, j'étais il y a 3 jours dans le colloque de la FCPE organisé au Sénat sur le décrochage. il y avait deux anciens décrocheurs qui étaient là. Et l'un des deux a dit, voilà, quand j'ai pris la décision de décrocher, c'est la première fois où j'ai eu l'impression qu'une décision ne m'était pas imposée. Ça fait réfléchir, hein, quand même. Hein. Ça fait réfléchir. Le domaine du monde auquel renvoie la matière, indépendamment de sa mise en œuvre scolaire, alors ça, ça fait souvent bondir les profs qui ont du mal à concevoir des choses comme ça, mais on aime l'histoire, ou alors on déteste l'histoire. Il y a des élèves qui disent ben, « Moi, tout ce qui s'est passé avant moi, ça ne m'intéresse pas. » Bon. Ce qui fait bondir les profs de français, « Je déteste la lecture. » Bon, ben voilà. Troisième dimension, la matière en tant qu'entité globale. Donc vous avez des élèves qui disent « J'aime le français, j'aime les maths » et il n'y a aucune précision. Ou alors « J'aime pas. Hein. » Les fonctionnements scolaires de la matière, c'est-à-dire ses composantes, par exemple en histoire, on peut aimer telle période, pas telle autre. Hein. En français, on peut aimer la rédaction, moins l'orthographe, etc. Les exercices, les modalités de travail, cours magistral ou non, l'ambiance, très important pour les élèves. L'ambiance, elle est plus ou moins détendue et on rit plus ou moins avec l'enseignant, si vous voulez. Cinquièmement, la spécificité au sein du système disciplinaire. Alors, j'ai oublié de le mettre, vous rajoutez. C'était pour voir si vous suiviez. Alors, la spécificité au sein du système disciplinaire. C'est-à-dire que l'élève déclare que telle matière est fondamentalement différente des autres. Par exemple, c'est très souvent le cas pour l'EPS. Vous voyez, c'est très différent des autres matières. Et j'y reviendrai. Du coup, c'est quelque chose pour l'EPS hein, qui plaît, parce que eh ben, on peut bouger. On n'a pas besoin d'être assis. On n'a pas besoin d'écrire, etc., etc. En revanche, vous avez d'autres élèves qui peuvent dire aussi que l'EPS est radicalement différent des autres matières, mais pour dire « je vois pas du tout pourquoi on fait ça à l'école, c'est sans doute pour donner des points à ceux qui sont mauvais ailleurs. » Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'important. Et on peut trouver ça sur n'importe quelle discipline, hein, c'est cette différence-là. Le fonctionnement de l'enseignant, j'y reviendrai, c'est-à-dire que l'élève déclare que le fonctionnement des enseignants dans cette discipline lui plaît ou lui déplaît. Pas forcément de tel enseignant, mais les enseignants dans cette discipline, si vous voulez. Par exemple, il préfère le fonctionnement des enseignants en espagnol qu'en anglais. Hop, je referme la parenthèse. Non, en anglais, oui, oui. Le mode d'exposition, c'est-à-dire ce qu'on a marqué là à l'exposition publique, ça renvoie au fait d'être exposé ou non à la vue de tous. Ça peut être très mal vécu. Par exemple, quand on est interrogé au tableau en maths alors qu'on ne sait pas. Ça peut être très bien vécu quand on fait quelque chose qui vous plaît, du théâtre ou tout ça. La corporalité. Donc là, ce que les élèves mettent en avant, ce sont les dimensions physiques ou sensorielles du fait. On en a parlé en sciences. On en a parlé aussi en EPS, pouvoir bouger. Fondamentale, la compréhension. Fondamentale. Fondamentale. C'est-à-dire que les élèves souhaitent comprendre. Ils stressent à l'idée qu'ils ne pourraient pas ne pas comprendre. Ils sont soulagés quand ils comprennent. Et ils aiment bien, et j'y reviendrai, notamment dans certaines disciplines où c'est clé, les profs qui les aident à comprendre. L'évaluation. L'évaluation, elle peut porter sur de multiples aspects. Les notes, la réussite ou l'échec. Dominique en a parlé, le sentiment de pouvoir progresser ou non. Un élève déclare, de toute façon, il y a des batailles qui sont perdues d'avance. Mais c'est terrible, hein ? Quand un élève en quatrième vous dit ça, mais on comprend qu'il décroche, le gamin. On comprend. Pas la peine qu'il s'accroche, puisqu'il sait d'avance ce qui va se ramasser, le pauvre gamin. Hein ? Le cérémonial de restitution aussi est important. L'identité. Les déclarations renvoient à l'identité de l'élève telle qu'il se la représente. dans ses dimensions familiales. Par exemple, il y a un élève qui disait, mais moi, je voulais faire l'allemand parce que mon grand-père a été prisonnier de guerre, il parle un peu allemand, et ça me fait plaisir d'échanger des mots avec lui là-dessus. Oui, c'est assez marrant. Vous avez les sorties familiales, vous avez les rêves d'avenir, voyager ou rester dans sa petite ville. Vous voyez, du coup, vous avez des élèves qui peuvent dire, ben, moi, je veux faire commerce, donc l'anglais, c'est important pour moi. Et quelqu'un d'autre qui dit, ah, moi, je veux faire commerce, l'anglais n'est pas important pour moi, parce que moi, je reste dans mon village. Hein. Vous voyez, c'est... Voilà. Les relations à l'extrascolaire, familiale, amicale, etc. L'extraordinaire disciplinaire, ce qui renvoie à ce qui sort du fonctionnement ordinaire de la discipline, c'est-à-dire les sorties, les visites, les échanges, les tournois. Les élèves aiment bien ça, souvent. Hein. Et y compris, c'est assez marrant, hein, des élèves voilà, qui sont en difficulté, voire en décrochage, qui sont fiers de défendre les couleurs de leur collège dans des rencontres sportives entre établissements. Hein. Les relations aux questions des élèves. C'est-à-dire que l'élève déclare que la discipline répond au non aux questions qui se posent sur son corps, sur sa vie. C'est très rare. C'est très, très rare. J'ai longtemps fait des formations avec un didacticien du français malheureusement décédé, Jean-François Alté, qui disait de manière provocatrice, voilà, l'école passe beaucoup de temps à répondre à des questions que ne se posent pas les élèves et ne répond pas aux questions qui se posent. Alors, c'est provocateur, hein, mais voilà, ça mérite réflexion. Et donc, on va trouver ça un peu en science, de temps en temps en philo, mais c'est rare. Les apprentissages. Les élèves déclarent que la discipline leur a permis ou non d'apprendre des choses nouvelles. Ils apprécient ça, mais c'est aussi rare. Et ça, j'attire votre attention sur le fait qu'on le retrouve dans les filières choisies en LP. Ce sentiment d'apprendre des choses, vous voyez ? Les découvertes, c'est très proche. Les élèves déclarent avoir fait des découvertes dans la discipline. Et puis, l'utilité, c'est-à-dire que les élèves déclarent que cette matière est utile ou le sera utile dans leur vie scolaire, professionnelle, sociale, immédiatement ou après. C'est très variable, hein, ça peut être très très variable. On a par exemple une élève de SECPA qui disait « Ah ben moi, je veux apprendre de l'anglais parce que comme ça, si je rencontre Justin Bieber, je pourrais lui parler un peu. » Eh bien, pourquoi pas ? Alors, si on regarde ça, on s'aperçoit que le sens des disciplines et de la vie scolaire fait souvent défaut aux élèves, notamment ce qui concerne l'identité, le rapport aux questions, la présence d'apprentissage ou de découverte, l'utilité, alors que l'appétence est là et que les apprentissages sont vécus positivement. Certaines dimensions pèsent aussi fortement dans l'orientation négative du vécu. Je l'ai évoqué, l'imposition, certaines formes d'évaluation, notamment dès qu'il y a de l'humiliation, ou dès qu'on se dit que c'est désespéré, quoi qu'on fasse, on aura la même note. Ce qui est fréquent, hein, les élèves ne baratinent pas, on a vérifié hein, dans d'autres recherches qu'on a pu faire. L'exposition publique, et les difficultés de compréhension, alors là, ça revient. J'insiste sur le fait que certaines dimensions sont bien plus complexes à analyser que nombre de discours le laissent entendre. Par exemple, le cérémonial de restitution, vous savez, où on commence par les meilleures copies, on finit par les moins bonnes ou l'inverse. Certains élèves le vivent très mal, d'autres très bien. N'allons pas trop vite, à certains moments, les choses sont compliquées. Sont compliquées et variables selon les élèves. Hein. C'est pour ça que pour les chercheurs, il n'y a pas de remède universel. Et de la même manière, vous voyez, on parle souvent des faits maîtres, on parle du fonctionnement de l'enseignant, c'est complexe. Je vais vous donner un exemple classique. Il y a voilà, des gens, alors des générations un peu antérieures, qui ont très mauvais souvenirs de l'éducation physique et sportive, et notamment de la piscine, parce qu'un prof de gym les achetait à l'eau. Vous ? Oui. Alors, soit on dit, voilà, c'est la personnalité de l'enseignant qui était un peu sadique ou il ne m'aimait pas, etc. Soit on dit, un, c'est lié à la discipline, Parce que jeter dans l'eau, hein, prendre ça au pied de la lettre, ça ne se fait pas dans toutes les disciplines. Il faut qu'il y ait de l'eau, si vous voulez. Bon, donc, voilà. Mais de surcroît, ça renvoie à ce qu'on appelle les configurations disciplinaires. Parce qu'il y a eu une époque où jeter les gamins à l'eau était considéré comme un moyen, effectivement, ben voilà, qu'ils apprennent à nager d'une manière ou d'une autre. Alors que maintenant, on n'est plus du tout sur cette configuration disciplinaire-là. Et donc, vous voyez, c'est en quoi la notion de configuration disciplinaire, à certains moments, peut amener à revenir sur certaines choses. Et puis, les déclarations des élèves quant à leur vécu permettent de constituer ce qu'on a appelé des cartes d'identité disciplinaires, caractérisant la perception des disciplines et leur fonctionnement, réalisé ou possible, et ouvrant ainsi la voie à des pistes d'intervention. Bah, par exemple, on voit que les mathématiques, selon les élèves, varient entre la dimension mécanique, logique ou recherche. Vous voyez ? Le français varie entre surnormativité et puis expressivité. Oui, bon. Certains stéréotypes peu propices aux apprentissages ont la vie dure. Et les profs les emploient encore, doués ou pas doués, littéraires ou scientifiques. Mais ça, c'est pas possible, parce que outre le fait que c'est quand même à interroger, si on n'est pas doué, y a pas de raison de s'accrocher. Il y a aucune raison de s'accrocher. Si on n'est pas un scientifique, il n'y a pas de raison de s'accrocher. Donc, vous voyez, il y a des discours là qui sont dans la reproduction. Les ruptures ou continuités quant au vécu entre les étapes du cursus interrogent les discours sur les maîtres, leur spécialisation et leur formation. On en a parlé. Les mathématiques sont bien plus appréciées au primaire que par la suite, c'est-à-dire par des maîtres non spécialistes. Vous voyez, pensez à l'enquête Teams. Bon. En même temps, attention, la situation est inverse pour l'histoire et géographie. Et il y a continuité pour d'autres matières. Par exemple, le français, c'est la même chose, c'est pas trop apprécié, que ce soit au primaire ou dans le secondaire. C'est triste, hein, moi, à l'origine, je suis un prof de français, mais enfin, bon, voilà. Et des différences existent et des points communs non négligeables. Et là, ça renvoie aussi à certains désaccords qu'on a avec certains de nos collègues sociologues. Il existe des points communs non négligeables quant au vécu entre les élèves de différentes filières scolaires. Ce qui semble fondamental, c'est le rapport aux disciplines en ce que les élèves peuvent en faire quant à leur intégration dans leur vie. Est-ce qu'ils arrivent à l'intégrer ou pas dans leur vie ? C'est ça qui est fondamental, quels que soient les élèves. Donc on est amené à relativiser certaines différences effectuées par certains collègues sociologues, qu'on apprécie tout à fait par ailleurs, hein, je le dis. Non, mais j'insiste parce que la vie scientifique, c'est une vie de débat et de controverse. Quand il n'y a plus de débat, c'est mort. Et les gens... Je dis que j'ai des désaccords avec des gens dont j'apprécie les travaux. C'est-à-dire que leurs travaux sont consistants et résistants. Autrement, c'est pas la peine de s'empailler avec des gens qui font du n'importe quoi, si vous voulez. Donc, mais c'est vrai. Alors, les déplacements et perspectives, si vous voulez. En quoi, éventuellement, ça peut être un petit peu intéressant, voilà, ce qu'on raconte. D'abord, ça permet d'articuler les différentes formes et définitions du décrochage. Vous voyez, on a des définitions dont on dit elles sont différentes, c'est vrai. Décrochage cognitif, absentéisme, léger, lourd, sortie du système scolaire, etc. Il nous semble que notre approche, vous voyez, permet d'établir une continuité au travers des processus entre ces différentes formes. Voilà, à réfléchir. Hein, voilà. Il nous semble aussi que ça déplace le questionnement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de repérer des catégories d'élèves dites à risque, même si ça peut être intéressant, auxquelles on appliquerait des traitements particuliers dans des dispositifs particuliers hors des fonctionnements normaux de la classe. Vous voyez ? Mais de modifier les fonctionnements disciplinaires ordinaires, qui engendre des risques pour tous les élèves. Jacques Pain, parle de maladie nosocoméale de l'école, en parlant du décrochage. C'est provocateur, hein, mais c'est intéressant. Ça veut dire que ce qui est à risque, ce n'est pas directement les élèves, ce sont les fonctionnements disciplinaires pour tous les élèves. Vous voyez ? Ce qui est différent comme position du problème. Là encore, hein, c'est à réfléchir, c'est à discuter, ça n'exclut pas, hein, les autres entrées. Attention. Ça permet aussi de montrer qu'il n'y a rien d'inéluctable et qu'on peut agir sur les phénomènes d'accrochage ou de décrochage au sein des classes, en restituant ainsi l'importance primordiale de l'action des enseignants. Attention, ça n'exclut pas la coopération avec les autres intervenants. Au contraire, ça la permet. Ça la permet, si vous voulez. Hein. Alors, j'insiste, hein, sur le fait qu'il n'y a rien d'inéluctable. On a parlé des maths entre le primaire et le secondaire. Mais dans d'autres pays, par exemple, les maths ne suscitent pas autant de stress et d'inquiétude. Hein. C'est un truc en grande partie spécifique à la France. Donc il n'y a rien d'inéluctable sur le fonctionnement des disciplines. C'est quand même à la fois, du coup, un peu inquiétant de voir certains fonctionnements perdurer, mais en même temps rassuré de voir qu'on peut agir là-dessus. Et ça permet de construire d'éventuelles actions de prévention plus diversifiées. Alors, quelques exemples, hein, qu'il faut après spécifier. Alors, j'insiste sur la première. Et j'insiste à cause des débats dans les primaires de la droite. Vous voyez, retour aux fondamentaux. Retour aux fondamentaux. Bon, alors déjà, c'est un peu irrespectueux, parce que ça voudrait dire que les enseignants ne feraient plus les fondamentaux, vous voyez. C'est-à-dire que les maîtres d'école primaire n'enseigneraient plus à lire, à écrire, à compter. C'est quand même un peu violent, hein, c'est ce dit entre parenthèses. Mais, si vous voulez, réduire le système disciplinaire aux matières dites principales, c'est une erreur radicale, à notre avis. Là, je m'engage par rapport au décrochage. Puisque les matières dites périphériques au secondaire contribuent à l'accrochage des élèves. Vous voyez, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Réduire une certaine opacité des fonctionnements scolaires, clarifier avec les élèves les notions de matière, de discipline, qui ne sont pas claires pour eux, et légitimement, hein, on fait des formations sur la notion de discipline scolaire, pour montrer à quel point c'est quelque chose de compliqué. Et souvent, ça permet à des collègues de se dire, ouais, effectivement, il y a, là, avec souvent des confusions entre matière scolaire, matière universitaire, matière à tel moment du cursus, à tel autre moment, etc. Clarifier les apprentissages, susciter des découvertes, c'est important. On a vu fonctionner ça dans des écoles où les maîtres, où les professeurs passent du temps à dire qu'est-ce qu'on a appris là ? Qu'est-ce qu'on a appris ? Mmh. Et souvent, c'est pas clair. Et je vous assure, on a beaucoup d'enregistrements de cours. Hein. Alors, y compris dans des matières, moi, que je connais relativement bien comme le français, j'écoute le cours, je ne sais pas forcément ce qui est visé comme objectif et les apprentissages qui ont été possiblement réalisés. Et donc, c'est important à un certain moment de revenir, de clarifier là. Permettre aux élèves de donner du sens au travail effectué dans chacune des disciplines. C'est à eux de trouver avec les élèves cette manière de construire ça. Garantir et sécuriser la compréhension, on insiste. C'est là, je trouve, étonnant de voir encore des élèves qui disent ben moi, je voulais poser une question et mon prof, il m'a dit t'avais qu'à écouter. Ou alors de voir des élèves qui disent comme le disait Dominique, le prof, il s'intéresse qu'à ceux qui comprennent et les autres, il les laisse tomber, si vous voulez. Le boulot fondamental du prof, c'est quand même de faire comprendre et apprendre aux élèves. Sans ça, à quoi il sert ? Et donc là, il me semble que d'une manière ou d'une autre, ça devrait être au cœur des dispositifs de formation des enseignants. Au cœur. Et on fait souvent des tas de choses, mais pas ça. Comment je vais tout faire pour que les élèves, même les plus en difficulté, arrivent à comprendre ? Bannir les humiliations ? Bon, je ne m'étendrai pas là-dessus. Il y a un collègue sociologue qui a fait un très beau bouquin là-dessus, c'est Pierre Merle, l'élève humilié. Lisez-le, c'est un beau livre, c'est très intéressant. Elles sont fréquentes, les humiliations, dans les souvenirs. On en a beaucoup. Et ça peut être des petites remarques, simplement. Hein. Ironiques. Ou simplement le temps passé à laisser un gamin au tableau alors qu'il bloque. C'est de l'humiliation aussi, à certains moments. Faire en sorte que les évaluations constituent des aides et non pas des obstacles. Voilà pourquoi les élèves devraient avoir la boule au ventre dans certaines évaluations. Pourquoi ? Est-ce qu'on pense sincèrement que ça les aide en quoi que ce soit ? Alors après, ça peut se discuter hein, dans la préparation aux examens. Mais ça, comme constante, c'est peut-être un problème qui concerne certaines matières. Hein. Ils n'ont pas la boule au ventre dans les évals en art plastique, par exemple. Susciter et étayer le désir d'apprendre, je crois que c'est quelque chose de fondamental. Ça n'empêche pas l'imposition à certains moments, mais c'est l'articulation entre les deux qui est en jeu là. Déconstruire les explications stéréotypées, hein, les questions des dons, littérature scientifique, et puis mettre en œuvre certaines pratiques. Des pédagogies alternatives qui ont fait leur preuve. On a beaucoup travaillé à la fois sur les pédagogies classiques, pour le dire vite, hein, et puis sur les pédagogies alternatives, notamment Freinet, Projet. Il y a quand même là des pratiques où les élèves semblent mieux vivre. Si vous voulez, les pédagogies classiques clivent les élèves, pédagogies alternatives moins. C'est-à-dire que les élèves apprécient d'avoir la parole, qu'on les écoute. Et il n'y a pas de raison qu'on les écoute en dehors des disciplines. Il n'y a pas de raison. Dans les disciplines, chacun peut construire un espace où on peut les écouter à partir des objets disciplinaires, quand même. Donc, le fait d'écouter, ils apprécient le fait d'échanger. Ils apprécient le fait d'être en recherche, etc. Et donc là, il y a maintenant une littérature de recherche suffisamment importante là-dessus, pour y réfléchir. J'attire quand même votre attention sur le fait que, quand même, nombre de dispositifs mis en place dans les micro-lycées, dans les écoles de la seconde chance, se réfèrent à des pratiques pédagogiques alternatives. Donc, plutôt que d'attendre que les élèves soient hautes, il faudrait peut-être le faire quand ils sont encore à l'intérieur. Au moins essayer, pas forcément faire entièrement, etc. Mais ça vaut peut-être le coup d'essayer. Et puis, peut-être réfléchir sur des propositions disciplinairement spécifiées. Par exemple, en maths, ce qui est central, ce qui ressort, c'est les angoisses liées à la compréhension. Et quand on fait chercher les élèves, ils apprécient. Voilà. En français, peut-être s'appuyer sur le désir de s'exprimer, d'échanger. Attention, ça ne veut pas dire laisser tomber les règles. Hein. Pas du tout. Ça veut dire qu'est-ce qu'on met, si vous voulez, en entrée principale. C'est toujours une tension hein, dans les disciplines. Il faut voir comment on articule, mais voilà, en fonction de ce qui ressort, vous voyez, c'est ce qu'on dirait. Histoire géo, rompre avec le sentiment d'apprendre sans comprendre. Ça sort beaucoup. Les élèves, ils disent, on nous demande d'apprendre par cœur, et souvent, on ne comprend pas les mots, et on ne comprend même pas de quoi il est question. Voilà, parce que, effectivement, dans d'autres périodes historiques, il y a d'autres cadres et c'est tout un travail que de reconstruire ces cadres. Hein. C'est vraiment pas évident, y compris pour nous adultes. EPS, art plastique, éducation musicale, surtout, essayer de garantir leur spécificité, de faire que ça accroche. Vous voyez, j'étais à un certain moment très perplexe devant les instructions officielles qui disaient il faut faire plus d'écrits en éducation physique et sportive. Alors que c'est justement le fait d'en faire moins qu'apprécient les élèves et qui les raccroche. Donc, peut-être qu'un système disciplinaire se pense dans son ensemble et dans ses spécificités. Si vous voulez. Anglais, en faire une langue qui vit et pas forcément une langue qui est morte et à laquelle on ne comprend rien. Vous avez des élèves qui vous disent, pour moi, l'anglais, c'est comme le latin, j'y comprends rien, effectivement, de la manière dont c'est fait. Et alors, j'attire votre attention sur le fait, mais je ne suis pas prof de langue, hein, mais certains élèves en difficulté disent notamment le prof, il parle tout le temps anglais, moi, j'y comprends rien. Et c'est pour ça que ça pose des problèmes de compréhension. Donc, vous voyez, ça, je ne dis pas qu'il faille faire autrement. Hein, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat, mais au moins y réfléchir. Et puis, faire exister l'éducation civique. Dans notre recherche sur la conscience disciplinaire, dans notre recherche sur le vécu disciplinaire, l'éducation civique, quel que soit le nom qu'on lui donne, est une discipline transparente. Ça n'apparaît pas. L'éducation nationale met l'accent dessus, pilonne depuis des décennies. Ça n'apparaît pas dans le discours des élèves. Ça mérite peut-être d'être interrogé. Alors j'insiste sur le fait que notre recherche n'est pas exclusive, elle est complémentaire des autres, notamment de nos collègues sociologues. Hein. Mettre ça, non, mais je suis très très sérieux, mettre ça effectivement en discussion. Donc quelques références biblio, et c'est là-dessus que je m'arrêterai. Vous voyez, bon, la recherche dont je vous ai parlé, c'est celle « Vivre les disciplines scolaires, vécu disciplinaire et décrochage à l'école ». Le numéro de repère qu'on a coordonné avec Régine Delamotte et Marie-Claude Panlou, donc qui sont des spécialistes de sciences du langage de l'Université de Rouen, c'est la part du français dedans. Alors c'est en quelque sorte un éclairage particulier. Le livre qu'on a coordonné donc avec Cora Cohen-Azria et Dominique, « La conscience disciplinaire », je vous en ai parlé. Et puis, on a évoqué la recherche sur l'école Freinet. Donc, voilà, 5 ans sur une école qui était en déshérence et qui pratique la pédagogie Freinet dans un milieu urbain, dans une banlieue très défavorisée de Lille. Et ça continue pour combien de temps encore, on verra avec ce qui se profile. Mais ça serait quand même dommage parce qu'il n'y avait aucun moyen supplémentaire. Aucun moyen supplémentaire. Donc, du point de vue de l'économie, c'est quand même pas mal, si vous voulez. Hein. Voilà. Donc, on en a fini pour notre présentation. Donc,
les ateliers.
Donc, les ateliers, je vous rappelle, hein, ils sont prévus pour commencer...